Merci beaucoup aux musiciens et au groupe qui nous a accompagnés pour le chant pendant ce temps où nous avons, dans la louange, exprimé tout ce qu'est le Seigneur Jésus pour nous et ce qu'est le salut qui nous est donné aussi en Jésus-Christ. Je vous invite à lire un texte qui est une parabole, une histoire que Jésus a composée. Elle se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Nous lisons les 16 premiers versets. Voici, dit Jésus, à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez dans la vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième heure, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Mais c'est que personne ne nous a embauchés. Allez dans la vigne, vous aussi, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers jusqu'au premier. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. C'était le salaire pour une journée de travail. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi un denier chacun. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi, va-t'en. » Je veux donner à celui qui a le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers derniers. » Voilà une histoire que Jésus a inventée et une histoire qui bouscule, qui nous déconcerte un peu. On comprend que Jésus parle de Dieu sous les traits de cet employeur. Mais l'image que Jésus nous donne de Dieu est tout sauf conventionnelle. On a là un Dieu qui affiche une surprenante liberté et une liberté qui nous dérange et qui pose question. Et certains voudraient dire que la foi, c'est du tout cadré, du tout prévisible. Eh ben non, c'est pas comme cela. Et certains pensent que la religion s'est faite pour donner des réponses à tout et pour tout verrouiller dans des certitudes étroites et bétonnées comme des bunkers. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir Jésus nous parler de Dieu avec une telle liberté? Qu'est-ce que ça fait du bien? Et qu'est-ce que c'est bon de voir Jésus contester les idées un peu trop reçues des gens religieux de son temps? Ça montre une belle santé, ça montre une belle indépendance. La vérité chez Jésus, elle a du relief, elle a de la vigueur, elle a de la liberté. Et c'est bien de ne pas l'oublier quand on veut être disciple de Jésus. Voilà pour un premier regard sur cette parabole. Ceci dit, la question se pose quand même, par quel bout prendre cette histoire? On dirait un casse-tête, où ce qui semble devoir réjouir devient cause de frustration. La générosité de cet employeur est magnifique. Il donne à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure le salaire d'une journée entière de travail. Mais cette générosité se retourne en sentiment d'injustice quand ceux qui ont travaillé toute la journée reçoivent le même salaire que ceux qui n'avaient travaillé qu'une heure. Il y a là de quoi donner la migraine la plus épouvantable au plus ardent des syndicalistes. Vous imaginez le dilemme d'un syndicaliste dans ce cas-là. Il est partagé entre la satisfaction de voir les plus pauvres, ceux qui ont peu travaillé, être valorisés, et la colère ou la frustration de voir les autres être dévalorisés. Et il ne peut pas dénoncer d'injustice parce que chacun a reçu ce qu'il devait recevoir. Personne n'est volé. Pauvre syndicaliste, dans ce cas-là. Le but de Jésus, pourtant, n'est pas de nous casser la tête avec un tel récit. Au contraire, je crois qu'il veut plutôt nous faire du bien et nous émerveiller. Alors comment passer du casse-tête à l'émerveillement? C'est un peu la question qu'on se pose là. Il me semble que tout dépend de l'angle sous lequel on considère cette histoire, ce récit. Est-ce que c'est, comme on le dit souvent, la parabole des ouvriers de la dernière heure? Dans ce cas-là, tout l'accent est sur les ouvriers, sur le salaire. Est-ce que c'est cela? Ou est-ce que, alors là c'est plutôt casse-tête, si on regarde comme cela, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt la parabole ou l'histoire d'un employeur pas comme les autres? Et si on regarde les choses du côté de l'employeur, on commence à voir des perspectives qui sont un petit peu plus positives et même qui pourront susciter l'admiration. C'est sous cet angle que je vous invite à considérer cette histoire. C'est l'histoire de l'employeur, pas comme les autres. Que voyons-nous? Nous voyons un propriétaire qui possède une vigne et qui part dès le matin à la recherche de travailleurs pour cette vigne. Alors pour les auditeurs de Jésus, ces mots résonnent d'emblée. Ils savent qu'à certains moments, quand on a une vigne, cela demande vraiment de la main-d'œuvre. Il faut, au moment de la taille, au moment des vendanges, il faut vraiment du monde qui puisse travailler dans la vigne. Mais le mot vigne résonne aussi à un second degré au temps de Jésus et pour ses auditeurs. Parce que la vigne, c'est souvent une image par laquelle on désigne le peuple de Dieu. Et quand on parle de l'amour de Dieu pour son peuple, on parle d'un propriétaire qui a sa vigne, qui la bichonne, qui la chérit, qui a tous les soins pour sa vigne et qui essaye d'en tirer aussi le meilleur fruit. Et donc, ces images-là sont présentes dans l'esprit des personnes lorsque Jésus parle d'un homme qui a une vigne. Automatiquement, on pense à cela. Et on comprend que Jésus parle aussi du Seigneur et de ceux qu'il va accueillir dans son peuple. C'est ça, au second degré, c'est bien présent. Une autre scène, chose qui est bien connue par les auditeurs de Jésus, c'est la scène qui nous est décrite là sur la place du village. On voit là une place du village où il y a des gens qui attendent depuis le matin, qui attendent pour un travail pour lequel on voudrait bien les prendre. C'est en fait ce qui se passait assez régulièrement pour toute une frange de travailleurs qui n'avaient pas d'emploi absolument assuré. Ces gens se proposaient comme journaliers. Ils travaillaient comme journaliers. Dès le matin, ils venaient sur la place du village. Ils espéraient trouver un travail pour la journée et grâce aux fruits de ce travail, faire vivre leur famille. C'était donc des vrais travailleurs qui étaient là sur la place du village. C'était des pères de famille, des jeunes hommes, des aînés. Ils avaient charge de famille et c'était important pour eux comme pour les leurs qu'ils puissent trouver du travail. Dans bien des sociétés, les choses se passent comme cela. Aujourd'hui, en Israël encore, hein, il n'y a pas si longtemps que cela, des jeunes Palestiniens, par exemple, se rassemblaient à certains carrefours proches de la frontière et attendaient les camionnettes des propriétaires israéliens qui voudraient bien les prendre pour la journée pour travailler dans le bâtiment ou dans les champs. Et pas besoin d'aller en Israël aujourd'hui, ici même à Paris. Vous allez du côté de la Villette ou de Stalingrad tôt le matin, vous trouvez aussi des files de gens qui attendent qu'on veuille bien éventuellement les prendre pour une journée de travail dans le bâtiment, dans différents services. Et dans toutes les grandes villes du monde aujourd'hui, des grandes villes du monde là où surtout des gens sont venus en nombre depuis les campagnes pour affluer, des gens doivent fonctionner comme journaliers, proposer leur main-d'œuvre, attendre qu'on veuille bien éventuellement les prendre. Et les gens qui sont dans cette situation, ils savent très bien que leurs femmes, leurs enfants dépendent de ce qu'ils auront gagné ou non ce jour-là, si on a bien voulu les prendre pour un travail. Donc voilà le cadre de notre histoire. Notre histoire commence tôt le matin. La première heure, le compte des heures, c'est à partir de 6 heures du matin. Et donc, à partir de 6 heures du matin, notre employeur se rend sur la place et il embauche le nombre de personnes dont il a besoin. Il se met d'accord avec les ouvriers, nous a-t-il dit, au verset 2, il fait un accord avec eux, Il a là un vrai contrat de travail, si vous voulez. Contrat de travail pour une journée. Voilà le travail pour la journée. Voilà le salaire aussi qui est prévu pour la journée. La somme d'un denier qui est, dont il est question ici, c'était la somme normale pour un emploi d'un journalier pour une journée de travail. Et on imagine donc les travailleurs qui ont été choisis, heureux d'être embauchés, et certainement prêts à faire le maximum pour s'assurer peut-être une nouvelle embauche pour le lendemain ou les jours suivants, s'il y a encore du travail dans les jours qui suivent. Voilà le début de l'histoire. Et 3 heures après, donc à 9 heures du matin, l'employé revient sur la place. Il fait une nouvelle sélection. Mais vous avez remarqué dans l'histoire, cette fois-ci, il ne précise pas le salaire. Il nous dit, je vous donnerai ce qui est juste. Et ces hommes qui étaient là, lui font confiance, ils acceptent l'engagement. Ils sont probablement, eux aussi, trop heureux d'être pris et de pouvoir rapporter quelque chose le soir à la maison. Mais voilà que le récit s'accélère. À midi, c'est-à-dire la 6e heure, puis à 3 heures de l'après-midi, la 9e heure, le vigneron fait de même. De nouveau, il retourne à la place. Et on commence à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Normalement, un vigneron, il connaît son travail. Il sait de combien de personnes il a besoin, et il les prend le matin, les gens dont il a besoin. Pourquoi est-ce qu'il est là à 9h du matin, à midi, à 3h de l'après-midi encore, pour chercher des personnes sur la place? Qu'est-ce qui le fait venir et revenir sur la place, si bien que finalement, il passe toute sa journée en aller-retour entre sa propriété et la place du village? À aucun moment, le récit ne nous suggère que, par exemple, ce vigneron ait eu une quantité de travail supplémentaire qui soit venue, qui fait qu'il ait besoin d'avoir absolument bien plus de monde pour son champ. L'insistance du récit porte plutôt sur l'initiative de cet homme. Il est dit « il sortit ». C'est dit à plusieurs reprises. Il y va lui-même à chaque fois. Alors qu'il a d'ailleurs un intendant, on découvrira dans la suite du récit qu'il a du personnel, des cadres, un intendant, mais c'est lui qui va sur la place à chaque fois. Qu'est-ce qui fait agir cet homme? Explication la plus satisfaisante, c'est que ce propriétaire est poussé par le souci des hommes sans emploi. Il est poussé par le souci des hommes sans emploi. Il est venu le matin, il a vu ceux qui étaient là, et il a un vrai souci pour ces gens-là, une vraie compassion pour eux. Il en a vu beaucoup sur la place tôt le matin. Il a pris ce dont il avait besoin en espérant que les autres seraient pris par quelqu'un d'autre. Mais 3 heures plus tard, il revient pour vérifier en disant « Je veux quand même être bien sûr. Est-ce qu'ils ont été pris, les autres ?» Et il reste du monde. Il prend donc quelques personnes en plus à qui il propose de donner ce qui est juste. Mais à midi, il veut encore vérifier. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres ? Et il y en a d'autres. Et il en prend encore quelques-uns. À 3 heures de l'après-midi, il espère qu'enfin la place sera vide, mais non. Donc il y va pour avoir le cœur net. Mais non, il y a encore du monde. Il ne peut s'empêcher d'en embaucher encore quelques-uns pour eux, pour les aider, pour donner espoir aux autres. À chaque fois, il promet de leur donner ce qui est juste. Et on imagine que pour ceux qui sont employés à midi, hein, qui ont attendu presque désespérés d'être employés, quand il est midi, il n'y a plus tellement de chances qu'on vienne vous chercher. Hein. Ceux qui sont employés à midi, ceux qui sont cherchés à 3 heures de l'après-midi, pour eux, le simple fait d'avoir été employé par cet homme et de ramener quelque chose à la maison est immense. Après ces longues heures d'attente, après ces longues heures d'espoir déçu quand même, après ces longues heures d'angoisse de ne rien ramener chez eux à la maison, sans parler du regard de tous ceux qui passent sur la place et qui certainement les considèrent avec beaucoup un regard un petit peu condescendant. Et finalement, on arrive à 5 heures de l'après-midi, c'est-à-dire une heure avant la fin de la journée. 5 heures de l'après-midi, juste à cette limite-là. Une heure avant la paye. Normalement, c'est le moment où on prépare la paye pour tout le monde. Et où se trouve le propriétaire à 5 heures de l'après-midi? Encore une fois, sur la place. Pour la 6e fois de la journée, il est là. La 6e fois. Est-ce qu'il trouve là quelques hommes? Des hommes qui n'espèrent plus être embauchés. Qu'est-ce qui les retient sur la place? Ce n'est pas l'espoir d'être embauché, probablement. Mais c'est probablement la honte. La peur d'affronter leur famille. C'est dur de rentrer quand on vous attend avec de l'argent et que vous devez dire, ben non, je n'ai rien. C'est dur de devoir expliquer, ben non, on a choisi les autres, mais on n'a pas choisi moi. C'est dur de devoir peut-être inventer des histoires auxquelles chacun essaiera de croire, mais dont on sait très bien qu'elles ne sont pas justes. Ils restent là sur la place, cloués par cette difficulté. Pourquoi êtes-vous resté ici toute la journée sans rien faire, demande le propriétaire. Ce n'est pas une accusation. C'est bien plutôt l'occasion pour eux de leur faire dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent dans leur situation. Et leur réponse dit leur détresse avec des mots tout simples, « Personne ne nous a embauchés ». Elle dit aussi d'une certaine manière leur motivation, c'est ce qu'ils attendaient, une embauche. Peut-être cette réponse traduit-elle un espoir. Ils l'ont vu venir déjà tellement de fois, peut-être qu'ils espèrent un peu quelque chose. Mais voilà donc la situation de ces hommes à 5 heures de l'après-midi. Quelle est la réaction du propriétaire? Là encore, assez remarquable. Quelle serait la chose la plus facile pour les aider? Allez, on vous donne une petite pièce, rentrez chez vous. Ce qui était le plus facile. Mais il préfère donner à ces hommes ce qu'ils désirent le plus. Et il va les embaucher pour un travail. Il va les embaucher pour un travail. Même si c'est que pour une heure. Même si ça semble hors de toute logique. Et eux, bien qu'ils les embauchent sans aucune promesse de salaire, ils vont. Ils ont senti certainement son respect pour leur personne. Ils ont senti certainement son respect, son souci de leur dignité en leur donnant ce travail à la toute dernière limite du jour. Voilà le portrait de Dieu que nous fait Jésus, me semble-t-il. Un beau portrait de Dieu. Un Dieu qui vient vers nous. Un Dieu qui a souci de nous vraiment. Un Dieu qui en fait beaucoup pour nous, parce qu'on voit cet homme qui vient, qui revient encore par souci pour ces hommes qui sont là sur la place. Et plus l'histoire avance, plus on découvre ce visage d'un Dieu qui s'intéresse véritablement à chacun, même à ceux qui n'ont rien à faire valoir, même à ceux qui n'ont rien à proposer, à donner. Il vient, il cherche, il prend à cœur la situation de ces hommes qui sont là sur la place. Il multiplie les initiatives, il s'inquiète pour eux. Sa journée n'est pas tranquille à cause d'eux. Il ne veut pas les laisser sans recours ou dans le désespoir. Ça, c'est le visage de Dieu que Jésus nous présente ici dans cette parabole. Et cela, c'est un message pour nous. C'est un message qui nous dit de manière éloquente et belle que Dieu a un cœur pour nous. Que Dieu a un cœur pour nous. Et il a un cœur pour nous indépendamment de ce que nous avons à faire valoir. Indépendamment de ce que nous avons à offrir. Les premiers embauchés, ceux du matin, pouvaient estimer qu'ils apportaient quelque chose, leur travail. Ce que pensaient d'ailleurs certains gens religieux à l'époque de Jésus, les gens bien respectables. Ils apportaient à Dieu leur fidélité, ils apportaient à Dieu leur obéissance, leur respect de sa loi. Et tout cela méritait un salaire. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Mais plus la journée avance dans notre récit, moins les hommes qui sont sur la place ont d'atouts, moins ils ont d'atouts eux-mêmes. Et arrive le moment où normalement il n'y a plus de travail, où normalement c'est trop tard. Et Jésus souligne ici que quand c'est trop tard apparemment pour nous, quand c'est trop tard apparemment d'après toutes les circonstances extérieures, toutes les conventions extérieures du travail, ça n'est pas trop tard pour Dieu. Ça n'est pas trop tard pour Dieu lorsqu'il vient vers nous. C'est pas trop tard pour Dieu pour nous faire encore du bien. Il garde encore, lui, des ressources pour nous, même quand tous les autres délais sont complètement explosés. Il garde une considération pour nous, pour un souci pour notre personne, pour notre situation. Et cela, Jésus le dit à propos de Dieu. Et quand il le dit à propos de Dieu, c'est aussi une manière dont il justifie le propre accueil que lui-même donne aux personnes que l'on considérait comme ne valant pas la peine d'être accueillies, que l'on considérait comme irrécupérables, comme tombées trop bas. C'est aussi ces gens-là que Jésus vise lorsqu'il fait cette comparaison, cette parabole, cette histoire. Et Jésus dit avec force que personne n'est trop bas pour Dieu. Jésus nous dit avec force que Dieu garde des ressources même pour celui qui n'a rien à faire valoir Rien du tout, même celui qui a attendu jusqu'à 5 heures de l'après-midi et que certains considèrent peut-être comme un paresseux, juste parce qu'il n'a pas été pris. Dieu garde des ressources, même pour celui qui n'a rien à faire valoir. Et ça, c'est un message qui est fort, qui est à recevoir pour nous aussi. Tu n'es jamais hors de portée de l'amour de Dieu. Tu n'es jamais hors de portée de l'amour de Dieu. Voilà pour ce premier volet du récit qui nous décrit la démarche de cet homme, de ce propriétaire qui va chercher ceux qui sont là sur la place de son village. Mais notre récit a un deuxième volet où les surprises s'enchaînent. Et ceci au moment le plus crucial, c'est-à-dire le moment de la paye. Première surprise, on voit arriver un intendant. Ça veut dire que le maître a des employés, il a des cadres. S'il est allé sur la place, sur la journée, c'est donc par souci personnel. Il aurait pu envoyer d'autres personnes, il a des cadres. S'il est allé, s'il a fait 6 fois le voyage, c'est parce qu'il a personnellement un souci pour ces gens-là. Il avait à cœur leur situation. Il était solidaire. Il voulait la relation avec ces hommes qu'il a cherchés, qu'il a employés. La deuxième surprise sera la générosité du maître. Il y a la 3 catégories d'ouvriers. Un groupe qui a un contrat de travail en bonne et due forme. Il y a ensuite 3 groupes qui ont eu simplement la promesse d'un salaire juste. Et puis il y a le dernier groupe, ceux de la dernière heure, qui n'ont aucune promesse de salaire. Ils n'ont comme seule certitude que la confiance en cet homme qui est venu les chercher jusqu'à l'heure la plus improbable. Et la paye va commencer par les derniers arrivés, qui ont tout juste eu le temps de mettre leur tablier. À peine ils ont mis leur tablier, qu'ils sont déjà payés. Surprise, ils reçoivent le salaire d'une journée entière. Le message est clair, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est générosité pure. C'est pas un dû, c'est pas un salaire, c'est un don. C'est une simple générosité. Mais ce don leur confère aussi un statut. Je crois que c'est intéressant de dire, il y a le don et le statut. Ce n'est pas une aumône, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a été glissée comme cela. C'est vraiment, ils ont bel et bien été embauchés. Ils ont eu un statut. Nous dirions aujourd'hui, ils ont une feuille de paye. Ils peuvent rentrer à la maison avec ça. Et le maître voulait qu'ils aient à la fois le don et le statut. Jésus souligne la générosité de Dieu. Cette générosité, quand elle s'adresse à nous, elle est immense, elle est entière. Dieu ne fait pas les choses à moitié dans sa générosité. Il a un souci fort pour tout ce que nous sommes. Quand il donne tout. Il donne sans compter. Il n'hésite pas à en faire trop même. C'est la mesure qu'il donne à son amour. Jésus donc souligne cette générosité de Dieu. Mais Jésus rappelle aussi la confiance que l'on peut avoir dans la générosité de Dieu. Ces ouvriers n'avaient aucun contrat, aucune promesse précise. Ils sont venus simplement parce qu'ils avaient été conviés par le propriétaire à venir. Et ils ont été éblouis. La confiance en la personne de celui qui était venu les chercher, c'est cela la seule chose qu'ils avaient entre les mains. Et cette confiance dans la personne de celui qui est venu les chercher était absolument suffisante, absolument généreuse. Et je crois que cela nous rappelle que dans notre vie avec Dieu aussi, nous avons à développer ce sens d'une vraie confiance en la personne de Dieu. Ne pas regarder forcément si nous avons toujours toutes les promesses ou toutes les garanties qu'on pourrait espérer. Des moments où nous ne voyons pas forcément avec certitude que Dieu peut nous donner ceci ou cela. La seule source de confiance que nous pouvons avoir, c'est la confiance en la personne de notre Dieu. Parce que les circonstances, comme c'était la 5e heure, les circonstances n'avaient pas grand-chose à apporter. Et nous pouvons nous aussi avoir une pleine confiance en la personne de Dieu. Dieu nous a prouvé ses bonnes dispositions, sa générosité envers nous. Dieu nous a prouvé ces choses en nous cherchant, en venant vers nous, dans la personne de Jésus-Christ, et nous qui recevons ce réussit, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous savons que l'amour de Dieu s'est manifesté là d'une manière extrême, d'une manière totale, d'une manière certaine, indépassable. Et nous pouvons avoir confiance, nous devons avoir confiance en la personne de Dieu, en son amour pour nous, et ceci, quoi que nous voyions autour de nos circonstances, comme ces gens qui, arrivés à la cinquième heure, n'avaient plus grand-chose à espérer. Gardez confiance en la personne de notre Dieu. Cette générosité envers des ouvriers qui n'avaient rien à faire valoir illustre ce qu'est le salut de Dieu. Ce salut que Dieu nous donne ne se mérite pas, il ne se gagne pas, il est donné, il est cadeau sur toute la ligne. Nous n'avons plus rien à faire valoir devant Dieu comme ces ouvriers à la cinquième heure. Nous n'avons rien à faire valoir qui puisse véritablement faire que Dieu veuille se relier à nous, veuille s'intéresser à nous, veuille nous pardonner, veuille nous accueillir. Tout cela, c'est cadeau. Cela doit être l'initiative de Dieu, et c'est son initiative. Et nous savons que cela lui a coûté cher. Dieu est venu vers nous en la personne de Jésus-Christ. Il nous a montré un amour total. Il a payé le prix par sa mort pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés. Pour lui, le prix à payer était cher. Pour nous, c'est cadeau. Comme nous l'avons lu au début du culte, vous tous qui avez soif, venez à la source des eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter sans argent, sans rien payer. Le salut, la vie éternelle que Dieu nous offre en Jésus-Christ a un prix. C'est pour ça qu'il est question d'acheter. Mais ce prix, nous n'avons pas à le payer. C'est pour ça qu'il y a cette formule un peu qui semble contradictoire, acheter sans rien payer. Ça a une valeur, mais sans rien payer. Ce n'est pas à vous de payer le prix de cette valeur. Même celui qui n'a rien peut le recevoir. Et c'est ainsi qu'il en est du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Nous pouvons le recevoir. Il nous suffit de venir à Dieu, de lui parler avec nos mots, de lui dire « j'ai soif, j'ai besoin de toi », de lui dire « j'ai besoin de pardon, j'ai besoin de réconciliation, je t'en prie, pardonne-moi, accepte-moi ». Et le Seigneur veut bien le faire. Assurons-nous que nous avons fait cette démarche vers le Seigneur. Elle nous est ouverte, elle nous est proposée par la générosité de Dieu. Mais revenons à notre histoire, car l'autre surprise, c'est que chacun des travailleurs reçoit le salaire d'une journée entière. Ceux qui ont été embauchés en cours de journée, 9e heure, donc à 9h, à midi, à 3h, ceux qui étaient embauchés en cours de journée avaient la promesse d'un salaire juste. Je vous donnerai ce qui est juste. Et on imagine que ceux qui avaient travaillé plus, qui avaient été embauchés à 9h du matin, par exemple, étaient un peu perplexes en voyant ceux qui avaient été embauchés à 5h du soir recevoir la pleine journée, et puis ensuite ceux qui avaient été embauchés à 3h l'après-midi recevoir le même salaire. Ils étaient un peu perplexes des choses, mais chacun de ceux qui étaient là à temps partiel devait se dire « mais c'est vrai, j'ai reçu, et j'ai reçu même plus que ce que mérite mon travail. Le salaire normal pour une journée de travail, c'est un denier. Je n'ai pas fait la journée entière, j'ai travaillé à temps partiel, je reçois plus. » Ils ne peuvent que remercier et recevoir la générosité pour eux. Par contre, au fur et à mesure du versement des salaires, on sent la tension qui monte certainement. Et en particulier chez ceux qui ont leur contrat, qui ont travaillé toute la journée et qui estiment avoir gagné et mérité leur salaire. Alors certainement qu'eux, s'ils s'étaient réjouis au début en voyant les derniers ouvriers recevoir une pleine journée de salaire, en espérant que pour eux qui ont travaillé la journée, ça leur vaudrait une augmentation, probablement qu'en voyant les choses avancer et en discernant un petit peu la tournure des choses, ils doivent commencer à bouillir intérieurement. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce employé? Il ne va quand même pas juste nous donner un denier à nous. Il ne va quand même pas nous faire cela. Et quand vient leur tour, c'est leur coup fatal. Et les voilà amers. Ils ont leur salaire. Ils ont ce qu'ils ont mérité, ce pour quoi ils ont travaillé. Mais ce salaire a un goût d'injustice pour eux, un goût de manque de considération pour leur travail, pour leur mérite. On pourrait imaginer que le maître ait choisi de faire autrement. La solution la plus simple, ça aurait été de d'abord payer ceux qui avaient le contrat, qui avaient commencé tôt le matin, à 6h du matin. Ils payent, ils s'en vont, content. Et puis ensuite, il paye les autres. Et tout le monde est content. Tout le monde admire la générosité de Dieu. Mais visiblement, le maître a voulu que ceux qui avaient été embauchés au tout début de la journée avec leur contrat de travail, ceux qui étaient sur cet ordre de tout ce qui se méritait par leur travail, le maître voulait que ces gens-là soient témoins de sa générosité envers les autres. Il le voulait, c'est pour ça qu'il a choisi cet ordre-là. Et là, cela devient exigeant. Où est la clé? Ces hommes sont frustrés parce qu'ils focalisent tout leur regard sur leur travail, sur ce qu'ils ont fait eux. C'est comme ça qu'ils font. On a travaillé toute la journée, pendant toute la chaleur du jour, et certainement que c'était exigeant de faire ce qu'ils ont fait. Les autres, ceux qui sont arrivés plus tard, ne pouvaient pas faire cela. Eux doivent reconnaître que tout est don, que tout est cadeau. Certes, ils ont travaillé 1 heure, 3 heures, 6 heures, mais ils savent très bien, eux, très, très fortement, qu'ils auraient très bien pu rester sur la place du village si le maître n'était pas venu les chercher. Le piège de ceux qui ont travaillé toute la journée, c'est d'oublier qu'eux aussi, le matin, ils avaient été sur la place. Et qu'eux aussi, ils auraient pu y rester sur la place si le maître n'était pas venu. Ils ont bénéficié, les premiers, de la bonté du maître. Ensuite, ils ont travaillé, c'est sûr. Mais s'ils ont pu le faire, c'est parce que le maître est venu, parce qu'il les a cherchés, qu'il leur a donné du travail. Et cette générosité reste la base de tout, même pour eux, quel que soit le travail fourni ensuite. Et c'est ainsi que Jésus répond aux gens religieux de son temps, bien fidèles, qui refusaient au nom de leur fidélité et de leur obéissance que Jésus proclame l'accueil du pardon de Dieu à ceux qui n'avaient rien à faire valoir. Il leur dit, mais souvenez-vous, vous aussi, pour vous les premiers, tout est générosité de Dieu. Si vous pouvez connaître Dieu, si vous pouvez chercher à lui obéir, c'est parce que lui-même vous aime. C'est tout, parce que tout est grâce de sa part aussi. Pour vous, en tout premier, Dieu a été généreux. Dès 6 heures du matin, Dieu a été généreux pour vous. Reconnaissez-le vraiment. Réjouissez-vous de cela. Ben, ce que vous faites est bien ensuite, c'est sûr. Ce travail que vous faites est valorisé par Dieu. C'est pour ça qu'il vous donne un salaire. Mais la base première, ce qui fonde tout, c'est la bonté de Dieu, c'est la générosité de Dieu envers vous comme envers eux que vous méprisez. Vous êtes tous sur le même plan. Vous étiez tous sur la place ensemble le matin. Vous avez tous bénéficié de sa bonté. Et il y a là, me semble-t-il, une belle leçon sur ce qu'est le salut. Un don, une grâce, un cadeau immérité pour tous. Et il faut nous en rappeler. Même lorsque l'obéissance, même lorsque l'engagement, même lorsque la consécration suivent le don que l'on a reçu. C'est d'abord, c'est fondamentalement, c'est toujours un don à la base, une générosité. Voilà le rappel de ce qui fonde notre vie. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? La générosité de Dieu est toujours première dans nos vies. Quoi que nous ajoutions derrière, la générosité de Dieu est toujours première. C'est la base sur laquelle tout se construit. Sans cette générosité, nous ne serions rien. Rien n'existerait sans cette base. Et même nos plus beaux efforts n'amèneraient à rien du tout s'il n'y avait pas d'abord cette base de la générosité de Dieu. Et Jésus nous invite ici à cultiver encore et toujours cette conscience que nous avons tout reçu. N'oubliez jamais, comme dit la chanson, n'oubliez jamais. Et puis ce récit, me semble-t-il, nous donne aussi une clé pour pouvoir accepter plus librement les générosités de Dieu envers les autres. C'est vrai que nous pouvons assez facilement tomber dans l'aigreur. On peut vite être aigri quand on commence à se comparer aux autres. Se comparer aux autres, c'est nous fait vite tomber dans des situations d'aigreur. On trouve toujours, bien sûr, les comparaisons du meilleur côté pour les autres et du moins favorable pour nous. C'est si humain. On trouve toujours que les autres sont plus gâtés que nous, plus favorisés que nous. Et l'aigreur est là qui nous guette et qui peut nous rendre amers et qui peut gâcher notre vie et qui peut nous rendre parfois invivables. La clé là encore, c'est de ne jamais oublier la somme des grâces que Dieu nous a faites à nous les premiers. C'est de mesurer toujours la somme de générosité qu'a Dieu pour nous de mille façons. Et si nous savons vraiment goûter combien le Seigneur est bon pour nous, si nous savons apprécier tout ce que Dieu nous a donné à sa juste valeur, en être vraiment saisis, c'est aussi ce qui va nous donner beaucoup plus de simplicité pour accepter que Dieu fasse du bien à d'autres, pour dire « mais oui, c'est très bien s'il fait ça pour les autres, il m'a déjà tellement donné à moi, j'en suis reconnaissant, que le Seigneur soit bon envers tous, envers chacun ». Et là, il y a cette belle liberté de Dieu que d'ailleurs Jésus revendique lorsque le maître dit « ne suis-je pas libre de faire de mes biens ce que je veux ? Ou verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Laissons à Dieu la liberté d'être bon, sans tomber dans l'envie. Mais comment cela est-il possible ? En mesurant d'abord que Dieu est bon pour nous, en mesurant la somme de bonté que le Seigneur a pour nous, en savourant pour nous la générosité de Dieu. Mais dans cette histoire, c'est d'abord le cœur de Dieu pour nous, son souci total et désintéressé qui nous est présenté. Rappelons-nous cela. Rappelons-nous ces hommes sur la place du village et disons-nous que quelle que soit la place où nous nous trouvons, même si peut-être nous nous sentons un petit peu en rade, peut-être un peu oubliés, ou dans l'attente qui taraude, ou dans l'incertitude de qui nous étreint, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, où nous attendons, nous avons un Dieu qui s'intéresse à nous. Nous avons un Dieu qui est préoccupé de nous et qui vient et qui viendra vers nous et qui a des ressources pour nous véritablement. Il est notre recours. Il a un cœur pour nous. Nous pouvons vraiment avoir confiance en lui. Amen.